On est dans cette série « Les uns, les autres ». On parle de vivre l'Évangile à l'intérieur de cette grande diversité qu'est le corps de Christ, cette grande diversité qu'est cette multitude d'êtres humains tout autour de la terre et qui, par l'Évangile, est réunie autour de la personne de Jésus-Christ. Et en parlant justement et en pensant à cette question de diversité, ça me faisait penser à tout ce qu'on a vu pendant les dernières semaines, pendant le mois de février, des sports olympiques. Hein, et je sais que souvent dans la salle, chacun a son sport en particulier qu'il ne veut pas manquer. Évidemment, dans mon cas, c'était facile. Je ne voulais pas manquer les games de hockey. Okay? Je voulais être sûr et certain de voir quand les Américains allaient perdre contre les Canadiens dans notre fierté canadienne. Et notre fierté a été humiliée. Le Seigneur est bon, il permet le partage de la médaille d'or et qu'on ne l'aille pas tout le temps. Bon, pauvres eux autres, ça faisait 46 ans quand même, tu sais. Fait qu'il faut partager, c'est correct, hein? Mais ce qui est spécial, c'est que vous avez tous des sports que vous aimez et certains aiment particulièrement des sports individuels où c'est vraiment l'individu, ses capacités. Il faut que ça soit son jour, hein? Il faut que ça soit son moment où tout ce que travailler dessus arrive à un seul moment parce que si c'est pas son moment, cette journée-là, ça va flopper. Ce qui est intéressant, c'est les sports de groupe où ils sont plusieurs comme une équipe de hockey et d'autres sports où ils sont plus qu'un dedans. Où ce que là, tout n'est pas sur une seule personne, que c'est sa journée, là, que là, tout coordonne, que tout ce qu'il fait réussit à 100%. Tu peux en échapper un peu lorsque ton coéquipier l'a échappé, puis il y en a un autre qui couvre ses arrières. Quand le défenseur n'a pas fait bien sa job, puis il a échappé un Nathan MacKinnon en avant de toi, t'espères que ton gardien, Hellebuck, chez les Américains, il va bloquer. Puis il a bloqué. C'est pas ça qu'ils ont gagné, hein? Parce que c'était sa journée au niveau du gardien de but. Il était dans son élément cette journée-là et il a résisté à toutes ces pocs du Canada parce qu'il fallait une équipe pour gagner. Et vous remarquerez que parfois, il s'est fait justement un bon film sur les Américains lorsqu'ils ont gagné en 80. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, c'est un classique des années de 1980. J'oublie quand est-ce qu'ils l'ont produit, là, mais c'est un excellent film à regarder. Et toute cette équipe qu'ils ont mis ensemble. Mais ce qu'on remarque quand il y a des équipes, que c'est pas toujours la question d'avoir toutes les meilleures du monde qui sont là pour réussir. Et même des fois, on a vu des équipes se construire d'un paquet de monde qui sont bons, mais qui sont pas les meilleurs, mais qui réunis ensemble, s'ils ont quelque chose de spécial, ils peuvent battre n'importe qui. Et ça s'appelle l'unité. S'ils réussissent à avoir de l'appréciation mutuelle dans l'équipe, se compléter l'un l'autre. S'il y a une chimie qui s'installe, une confiance, et que chacun renforcit l'autre par sa présence, et que ce partage-là, on a vu des équipes parfois renverser l'orgueil canadien. Avec les meilleurs du monde. Hein? Ces joueurs canadiens qu'on dit, hey, sur une même ligne, Celebrini avec McDavid puis MacKinnon, c'est pas possible! C'est juste les Canadiens qui peuvent avoir cette ligne-là. Et pourtant, cette ligne-là des trois meilleurs marqueurs de la Ligue nationale peuvent perdre. Si de l'autre côté, ils ont de l'unité. Si de l'autre côté, tout le monde est dans son élément. Vous me suivez? Et réussit à faire plus que ce qu'un individu ne pourra pas assurer tout seul. L'élément, et vous me suivez bien, de la diversité. Une équipe de femmes qui avait construit justement une équipe ensemble dans le basket. Après avoir construit cette équipe-là, c'était évidemment pas pour conquérir le monde, c'était pas pour gagner les Olympiques. On dit ceci, il y a tellement de camaraderie entre nous dans notre équipe, c'est quelque chose qui me manquait d'avoir ça dans une équipe. Cet esprit d'équipe et qu'on se complète les uns les autres et qu'on veille les uns. C'est pas juste une équipe de sport. Il y a quelque chose de plus large que ça qu'elle exprimait. Nous nous soutenons mutuellement de toutes sortes de façons différentes avec demain différentes personnes. Il y a une variété. Et j'adore voir les filles réussir et grandir. Il se fait une camaraderie à l'intérieur de cette équipe-là et il y a plus juste, ben, moi que je brille. C'est que quand tu réussis, ça me crée de la joie. Dans une vraie équipe où il y a de l'unité, hein? Quand l'autre, ah, c'est pas juste, j'aurais voulu avoir ce but-là, j'aurais voulu être le numéro, j'aurais voulu. Non, non. Quand lui réussit, je réussis. Il y a ce partage dans une vraie unité, dans la diversité, dans une vraie équipe, d'une joie quand l'autre progresse et non de la jalousie. une joie partagée, une joie collective, j'oserais même dire une joie familiale, authentique. Et ça, quand c'est présent là, dans l'équipe, là, ça se ressent. Ça se ressent. Tu l'as ou tu ne l'as pas, cette sincérité d'unité, que ce n'est pas juste un paquet d'individus qui veulent juste tout briller puis qui se foutent du reste. On voit des grandes équipes avec beaucoup d'individus qui ne réussissent pas et d'autres avec des moins grands joueurs dans n'importe quelle équipe. Et tout à coup, parce que l'unité, il y a cet élément-là qui est déclencheur pour réussir. Une unité qui peut renverser même des plus forts, individuellement. Et quand je disais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle disait? Je trouvais ça tellement proche de ce que les Écritures nous parlent. Dieu nous a placés dans une famille de son peuple pour nous soutenir dans nos vies. Nous avons besoin les uns les autres pour continuer à marcher sur le chemin de la vie de Jésus-Christ en nous. Parfois, cela peut signifier écouter quelqu'un qui est en difficulté, de répondre à un besoin pratique ou prononcer quelques mots d'encouragement. Nous pouvons célébrer les succès de certains. Cette semaine, j'ai pu participer au succès et d'entendre certains qui ont eu leur citoyenneté. Doïve et Hortense ont eu leur citoyenneté. Et vous savez quoi? Probablement sur les questions canadiennes, ils peuvent répondre mieux que nous de souche. Ils peuvent nous faire la barbe, en bon québécois, sur l'histoire canadienne qu'ils ont dû apprendre et poser plein de questions qu'aucun d'entre nous a eu des questions à répondre pour notre citoyenneté. On l'a eu à la naissance, sans aucun mérite, n'est-ce pas? Sur le mérite de nos parents ou de nos ancêtres. Célébrer les succès font partie de ce qui nous caractérise comme équipe. Offrir une prière pour trouver la force dans une épreuve. Ou mettre au défi les uns les autres de grandir dans la foi. Ou de souligner qu'on n'est pas juste nous autres ici dans la salle, mais que d'autres personnes aient de les nommer comme il va en nommer. N'est-ce pas? Souligner par plein de petits détails l'appréciation et la valeur, l'honneur des uns les autres. Font partie de construire cette unité, cette diversité-là, et qu'elle ait un impact qui peut être tellement surprenant. Lorsqu'elle est là, cette unité-là, qu'elle est sincère et qu'elle se construit par plein de gestes édifiants et d'encouragement qui sont si variés dans le peuple de Dieu. En tout, nous pouvons toujours nous efforcer, nous dit Paul, de faire ce qui est bien les uns envers les autres. Amen. Et c'est ce qu'on a, c'est là ce qu'on est ce matin. On est dans les uns les autres, dans notre série. Si vous êtes nouvellement arrivé à l'Église, vous pouvez écouter les deux dernières prédications. On est dans une série de 6 semaines. La semaine prochaine, la semaine suivante, c'est Tony et Marco qui vont nous amener dans les 4e et 5e. Et je vais revenir pour la 6e. Les uns les autres, vive l'Évangile dans la diversité. Et pour juste nous remettre en contexte, puis là, j'essaie de peser sa manette. D'habitude, ça fonctionne, mais là, il n'y a pas de réponse pour passer à la prochaine diapo. C'est des choses qui arrivent. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, mais il va falloir passer à la prochaine diapo manuellement, je crois. Parce que là, mon petit piton, il ne fonctionne pas. Alors, Louis-Joseph, peux-tu le faire passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Et on va le... Bon, c'est correct. On va le repartir. Alors, juste pour vous rappeler, la semaine dernière... Vous mettre en contexte, on a regardé « Aimez-vous les uns les autres », excusez-moi, le fondement de l'unité. Et c'est cet amour que Dieu nous invite à avoir les uns pour les autres. On a regardé ça en détail, l'amour de Christ qui passe avant la culture. Aimer l'autre, c'est comprendre et passer par-dessus les différences, pas le changer pour que je sois plus à l'aise. L'amour est la marque du disciple et devient notre témoignage dans un monde divisé. Ensuite, on a vu le cœur ouvert de Dieu, accueillir les uns les autres, partie 2. Et on a vu donc avec ces textes-là, de accueillir, c'est de valoriser la personne, pas juste la tolérer, la différence. Christ a brisé les murs d'exclusion, donc il veut qu'on travaille dans ce monde où ce que le mur a été enlevé, où ce qu'il a uni. L'Église accueillante reflète aussi la gloire de Dieu, nous dit Paul, et les actes de bonté confirment que l'amour de Dieu est en nous, et cela affecte aussi notre cœur qui est rassuré par notre comportement qui est cohérent à ce que l'on dit de notre bouche. qui est tellement important. Aujourd'hui, troisième partie, encouragez-vous les uns les autres, honorez les différences. Comment s'encourager? Comment se soutenir et honorer les différences? C'est ce qu'on va regarder ce matin. La parole de Dieu nous dit ceci, verset clé de ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. « Encouragez-vous donc les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. » Littéralement, faites une construction de maison solide dans vos relations. Construisez pas sur du sable, mais sur du roc. Et deuxièmement, Romains, chapitre 12, verset 10. « Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Encore ici, les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque ou de prévenance les uns pour les autres. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Parle-nous comme tu le veux, Seigneur, ce matin. À chacun, tu veux donner des défis différents. À chacun, tu veux encourager, donner une parole visionnaire, donner une correction, faire régler peut-être un souvenir passé. Ou que dans la diversité, j'ai été blessé et j'ai des hésitations. Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire dans nos cœurs ce matin, mais on veut te faire confiance et te demander, Seigneur, parle à mon cœur personnellement ce matin, comme tu le veux. Je veux te demander, et je veux te dire, Seigneur, je l'ouvre mon cœur, je veux le rendre disponible. Et je te prie que l'Esprit de Dieu interagisse et travaille ma volonté. Et dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. L'idée centrale ce matin est la suivante. Dans une église multiethnique, il faut plus de paroles d'encouragement que de comparaison. Encourager, c'est de reconnaître la grâce de Dieu à l'œuvre dans une autre culture, un autre style, une autre perspective. Et l'honneur protège, honorer l'autre protège l'unité dans la diversité. D'honorer. Ça protège cette unité. L'encouragement est littéralement le carburant de notre persévérance à bien des égards. Et dans une église qui veut se multiplier en ayant un impact dans les autres cultures, l'encouragement mutuel maintient la foi, la joie et la vision. Les uns les autres ne sont pas ici des options spirituelles, les Écritures nous disent. Mais bien, c'est un commandement que Dieu nous a donné relationnel, pour lequel il nous a donné tout l'équipement qu'on a de besoin comme croyants, par l'Esprit Saint, par les dons, pour remplir ce mandat-là. Il dit, vous allez vous aimer, mais comme je vous ai aimé. Parce qu'on est récipiendaire de son amour, il nous dit qu'on est rendu apte de déverser cet amour. Il ne nous demande pas quelque chose qui est impossible pour nous. Il nous demande quelque chose dans lequel nous sommes dépositaires. De quelque chose qui rend possible ce commandement relationnel les uns pour les autres dans une église qui veut être crédible, unie et rayonnante dans sa communauté. Et plus que ça, en sort, il ajoute un autre élément pour garder et protéger cet élément-là d'unité. Pour y arriver, il faut le pardon et la patience. C'est ce qui vient cimenter les relations. Et Colossiens, c'est Paul qui nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Parce que c'est à l'intérieur de nos déceptions les uns envers les autres que moi je vais faire aux autres et que les autres vont me faire, que le Seigneur veut que je pratique le pardon. Le pardon m'oblige à revenir à lui pour de l'aide, pour venir cimenter la relation de ce qui a cimenté ma relation selon le message de l'Évangile, avec Dieu, que Dieu est venu parmi nous, nous offert un pardon non mérité. Il est parti des cieux, de la perfection, pour se rendre dans notre imperfection, dans notre rébellion, dans notre monde arrogant qui pense se passer du Créateur. Et il vient parmi nous, nous offrir le pardon de nos péchés par son sacrifice à la croix. C'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle qui a une solution pour venir recimenter la relation brisée entre Dieu et l'homme. Et ça passe par le ciment du pardon qui vient tenir les briques ensemble. Et à toutes les fois que je suis frustré contre quelqu'un, que je suis déçu, puis là je bombe, « Ah, mais ça, c'est parce que cette personne est telle culture, puis eux autres sont de même. » Je sais qu'ici, les gens ne disent pas ça, là. Mais dans d'autres églises, ça arrive que des gens font des commentaires comme ça. Et qu'est-ce que ça fait à chaque fois? Ça brise le ciment qui tient les briques ensemble. Et ils deviennent lousses. Plus facile à briser, tomber à terre. Et le pardon, quand je viens de l'appliquer parce que je l'ai reçu et que je l'applique dans la relation où ce que je suis déçu, où ce que je viens brasser des vieilles blessures, où ce que je nourris des perceptions sur une personne, mais quand je pardonne, je viens remettre le ciment pour solidifier la relation. Et c'est tellement important, ça. Et c'est ce que l'Évangile, le message de l'Évangile, vient nous dire pour maintenir nos relations, les garder ensemble. Aujourd'hui et au cours des prochaines 3 semaines, vous allez entendre aussi des histoires bibliques d'immigrants. On a essayé d'intégrer dans les prochains messages des exemples d'immigrants qui peuvent être inspirants pour nous dans les Écritures. Et une des histoires inspirantes bibliques, c'est celui de Joseph, l'immigrant forcé. Mais certains d'entre vous avaient immigré un peu forcé, hein? Parce que ce n'était pas facile dans le pays où ce que vous étiez. Peut-être pas venu en esclave, mais un immigrant juif qui se ramasse en Égypte. Et il n'a pas demandé d'immigrer, lui. Il a été vendu, imaginez. Il y en a gros comme ça qui se sont ramassés en Amérique du Nord, comme Joseph. Et ils ont établi leur vie. Un immigrant vendu comme esclave ayant vécu de l'injustice, vraiment de l'injustice, une trahison familiale. Vendu, pas par le voisin, pas par la tribu voisine, pas par quelqu'un de mon autre culture. Ma famille me vend. Imaginez. Qu'est-ce que va faire Joseph, l'immigrant trahi, vendu par sa propre famille? Rester une victime toute sa vie et raconter sa pauvre histoire pour qu'on pleure sur lui? Joseph a quelque chose de particulier. Joseph croit clairement dans la souveraineté de Dieu. Et de son pays, il transporte avec lui ce qui est déjà dans son cœur, une croyance que Dieu mérite ma confiance. C'est ce qui l'amène dans ses bagages, qui étaient peu nombreux, ses bagages, son baluchon, sa foi avec Dieu. Il la transporte dans son pays où ce qu'il est envoyé, croyant que Dieu est au contrôle, même s'il est dans un statut d'être un esclave, d'être victime de méchanceté. Il ne demeure pas dans une mentalité de victime pour se plaindre, pour s'apitoyer, pour bâtir de la colère contre l'autre. Mais croit dans un souverain contrôle de Dieu sur toute chose et même sur sa vie chaotique. Dieu est au contrôle. Sa vie chaotique. Même si l'incohérence apparaît, et il est résilient parce que Dieu lui donne la résilience à cause qu'il a foi dans le contrôle de Dieu. Et Dieu va l'utiliser pour sauver des nations. Cet homme, s'il était resté dans la victimisation, s'il était resté à dire « pauvre de moi, ma famille me trahit, oh, le boss, la patronne me trahit, elle a menti sur moi » et juste restant victime, il ne serait jamais occupé des gens en prison. Il n'aurait jamais vu la bénédiction de Dieu sur son travail et il n'aurait jamais été invité à entendre le témoignage des hommes dont le rêve qu'il va écouter et raconter va être sa porte de sortie. Mais pas quand il pensait. Il va avoir encore 2 ans de plus. Pauvre lui, même quand les gens, ils leur donnent une vision, il l'oublie. L'homme toujours oublié, trahi. Non, il ne reste pas dans cette attitude-là, toujours disponible pour servir en attendant ce que Dieu voudra faire avec lui. Et parce qu'il est dans cet état-là, Dieu, dans sa grâce, va l'utiliser pour sauver littéralement des nations par ses instructions. Cet exilé va être utilisé puissamment par Dieu. Alors qu'il est dans l'injustice, parce qu'il reste collé à la justice de Dieu pour sa vie, sans comprendre tous les détails. Et il pardonne ses offenseurs, lui permettant d'être libre de servir, lui permettant de ne pas perdre sa joie, lui permettant d'être disponible pour les opportunités qui arrivent dans sa vie. Puis, il pardonne donc son frère, la femme de Potiphar, le chef des panetiers qu'il oublie, car il a foi dans un Dieu souverain. Quel exemple d'immigrant! Et certains d'entre vous avez vécu où on a volé vos demeures, On vous a envoyé dans un autre pays pour vivre dans des camps de réfugiés. D'autres se sont fait voler leur travail, d'autres se sont fait menacer leur vie à cause de des raisons politiques. Ils doivent partir ailleurs. D'autres ont une situation économique de pays difficile où un taux d'emploi tellement bas où c'est difficile d'avoir la possibilité d'avoir de l'éducation pour nos enfants, un travail stable, d'avoir ta paye quand tu as travaillé. Nous autres, on prend ça pour acquis en Amérique du Nord, mais il y en a plein qui travaillent, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont avoir leur paye. Hey, t'imagines-tu vivre à chaque semaine? Pas certain que tu vas l'avoir, ta paye. Toi, comme Nord-Américain, tu ne te poses pas la question, là. Mais il y a plein de gens dans le monde que c'est leur condition. Joseph est ce modèle biblique d'un homme immigrant qui, par sa proximité à Dieu, a un impact sur son environnement sous-estimé complètement. Et pourtant, Dieu veut utiliser un immigrant comme Joseph pour affecter le monde entier. C'est pas beau, ça. Joseph l'immigrant. N'oubliez jamais, il y en a d'autres qu'on va regarder, mais Joseph l'immigrant, quel homme exceptionnel. Et pourtant, c'est pas ses qualités personnelles qui nous sont racontées. On nous dit, il eut confiance à Dieu. Et Dieu fit réussir tout ce qu'il faisait parce que l'Éternel était avec lui. C'est l'élément déterminant dans ta boîte à outils que tu traînes avec toi au travail, dans ta boîte à lunch, dans ton petit sac que tu transportes d'un pays à un autre comme immigrant ou que tu n'as quasiment rien comme bagage. Tant que tu as dans tes bagages, tu as la présence de Dieu. La foi dans un Dieu qui est au contrôle. Tout peut se passer, tout est possible et tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans le prochain pays. C'est l'élément déterminant. La présence de Dieu dans tes bagages, peu importe où ce que tu vas. Je reviens à nos points principaux ce matin à partir du texte qu'on vient de lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, vous savez, il faut respecter aussi le contexte. Il y avait perdu les gens de Thessalonique avaient perdu des amis et Paul leur enseigne à espérer dans le retour promis de Jésus qui ramènera leurs proches dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est là qu'il parle du retour du Seigneur et de son retour aussi imminent. Même s'ils ne savaient pas quand cela se produirait, il leur rappelle qu'en tant que croyants, ils n'avaient pas à attendre dans la crainte ou dans le jugement de Dieu pour son retour, au chapitre 5, verset 9. Au contraire, ils pouvaient attendre avec confiance leur vie future avec lui en attendant, comme Joseph avait confiance. Encouragez-vous mutuellement, édifiez-vous mutuellement. En attendant que ça se réalise, tout ça là, nous, comme corps, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Alors, oui, c'était pas dit dans un contexte multiethnique, mais c'était dit dans un contexte d'une église qui devait s'encourager en attendant que, et en attendant que le Seigneur revienne. Nous, comme église baptiste évangélique de Trois-Rivières, la communauté chrétienne est invitée à se soutenir les uns les autres. Maintenant, je sais que certains, peut-être, n'aiment pas l'usage du mot « exhortez-vous les uns les autres ». Parce que l'idée que vous avez entendue peut-être dans certaines églises, « Ah, il y a quelqu'un qui est venu m'exhorter. Hein, » il y a une réaction, là. Hein? C'est parce que quand vous entendez ça, ça sonne un petit quelque chose, une note difficile. Ça sonne plus une note de réprimande, n'est-ce pas? Pour plusieurs, c'est le cas. Pour plusieurs, ils pensent que « exhorter » veut dire « réprimande » parce que le mot a été utilisé comme ça. Mais le mot signifie beaucoup plus proche du mot « consolation », le mot « encouragement ». Le mot « exhorter » est utilisé et galvaudé de façon à ce qui est devenu un peu négatif dans notre usage général. En fait, si on veut utiliser une image inspirante, l'idée de « encourager » ou l'idée d'exhorter, là, vous avez tous déjà vu les films où il y a une grande scène, où on a deux armées de chaque côté d'une vallée et qui sont prêtes à s'affronter. Il y a une première rangée qui est en train de shaker dans ses culottes. Il ne faut pas qu'il monte. Mais en arrière, ils sont en train de trembler comme ça, là, parce que tout le monde a peur de mourir sur un champ de bataille. Et vous avez vu un général d'armée se promener en cheval, marcher en avant, pas plus gros que les autres, mais qui a une voix qui porte. Et qu'est-ce qu'il va faire, le général d'armée? On dit qu'il va exhorter. C'est le même mot qui était utilisé. Il allait exhorter son armée. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait un mot d'encouragement pour les rendre forts, leur convaincre de la mission qu'ils ont. Je vous rappelle, on est ici pour notre liberté. Ce monde-là, ils viennent voler notre territoire. Il leur rappelle la raison d'être, de pourquoi ils sont sur ce champ-là de bataille, pourquoi ça vaut la peine de risquer ta vie. Il les exhorte pour les fortifier, pour penser, hey, pense pas juste à toi, là. Pense à l'autre à côté de toi, il faut que tu protèges. Et il leur donne un mot d'exhortation, un mot visionnaire pour les rendre solides sur leurs pattes, pour leur rappeler pourquoi ils sont là, pour pas qu'ils se sauvent. puis qui abandonne ou qui joue à la victime. Parce que tout le monde, sur le champ de bataille, a des raisons de rester chez eux. Pour sa femme, ses enfants, parce que si, parce que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience comme combattant. Toutes sortes d'excuses pour ne pas être là. Et le général se place à l'heure, il exhorte son armée. C'est très positif. Rendre solide, encourager. Pensez à ce général d'armée-là, quand vous êtes en train d'encourager quelqu'un, c'est ça notre rôle, d'encourager. C'est de rendre la personne qui est devant là. Des fois, vous corrigez quelque chose, c'est vrai. Mais c'est de rendre fort, de revigorer, d'inspirer, d'insouffler un souffle de courage dans la vie de personne-là et de la remonter, l'élever. C'est l'image ici qui est utilisée quand on parle d'exhorter. Encouragez-vous les uns les autres. Et ça passe aussi, entre autres, par la consolation que l'apôtre Paul utilise beaucoup dans le livre de 2 Corinthiens qu'on a étudié ensemble. Donc, si vous gardez ça en tête, peut-être vous allez pouvoir nuancer un peu plus mieux le vocabulaire chrétien que vous avez entendu à l'église de quelqu'un qui est venu vous exhorter. Mettez le mot « encourager », « soutenir », « consoler » pour donner plus de précision à la... Et des fois, ça passe aussi par encourager quelqu'un d'abandonner son péché. Oui. D'abandonner une mauvaise décision qu'il a prise. Puis je t'encourage, je t'inspire, je veux te rendre fort pour être capable de dire non à cette décision-là, c'est pas la bonne, mon ami. Et c'est là qu'il y a un sens d'exhorter, de corriger, mais c'est tout dans l'attitude dans laquelle on le fait aussi. Et donc, c'est ce mot-là que Paul utilise de fortifier, d'édifier, donc de rendre solide une maison, OK? Et qu'il utilise ici pour encourager les gens à se soutenir les uns les autres. Cet encouragement de fortification de la personne se fait de manière différente selon notre personnalité, selon notre culture, selon les expériences de vie qu'on a reçues. Ça prend toutes sortes de formes, l'encouragement, pour atteindre son objectif. Compliment, présence, sans rien dire, geste d'affection, payer une facture, le non-verbal, le corporel, une caresse des fois, une main sur un bras. Il y a tellement de gestes qui peuvent se prêter à être un encouragement si varié. C'est pas une chose, l'encouragement. Et puis, je vous rappelle ici Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 qu'on a lu tantôt. Je vous lis le verset 9 que j'ai pas lu précédemment. Écoutez bien ici, dans le verset 9, ce qu'il dit. « Que l'amour soit sincère. » Et quand il dit « sincère », il est en train de dire, littéralement, en grec, il dit « qu'elle soit sans hypocrisie. » Qu'elle soit pas en train de faire quelque chose, mais dans le but de paraître de telle façon. Non, non. Un amour sans hypocrisie, qui est authentique. « Ayant en horreur le mal et vous attachant au bien. » Et là, immédiatement après ça, il dit, il donne le moyen pour y arriver, à aimer sans, avec sincérité, puis etc., par l'amour fraternel. Et là, si vous voulez rappeler de l'amour fraternel, c'est quoi? Pensez à fromage Philadelphia. Là, vous dites, pourquoi vous pensez au fromage Philadelphia? Parce qu'amour fraternel, le mot, c'est Philadelphia. Vous comprenez, là, maintenant? Quand vous verrez le fromage Philadelphia, c'est le fromage de l'amour fraternel. Tout simplement, la ville de Philadelphie, c'est la ville de l'amour fraternel. Et c'est le mot utilisé ici pour parler de l'amour fraternel, Philadelphia. Le fromage de l'amour fraternel. Sur un beau morceau de céleri. Ah, non, désolé, Ghislain, non, pas sur un morceau de céleri. Sur un beau piment. Un beau piment orange. Hein? Non, pas sur du céleri, je veux dire. Hein? C'est bon d'en rire comme ça, hein? De se taquiner les uns les autres. Ceux qui n'ont pas compris, ben vous devrez écouter les autres messages pour comprendre de quoi on parle quand on parle de céleri et qu'on pense à Ghislain. Et il dit, on le fait par l'amour fraternel, donc l'amitié des frères et des sœurs, c'est ça que ça veut dire, littéralement. Donc, soyez pleins d'affection, c'est l'adjectif qui est donné ici, pour qualifier les uns les autres. Pleins d'affection les uns pour les autres. Et là, ici, le mot affection, bien là, c'est un autre mot, le Philadelphia, puis le Philaostergia. L'amour familial. Hein? Phila, c'est toujours le mot, c'est le mot amour, amour-amitié. Et là, souvent, on le nomme en grec avec un autre mot. Alors, amour fraternel, amour familial. avec une affection les uns les autres comme une famille. Fait que celui qui est à gauche ou qui est à droite sur ta rangée, c'est ton frère ou ta sœur dans la foi. Puis comme tu ferais un effort pour inviter ton frère et ta sœur biologique ou familiale chez vous pour telle ou telle activité, parce que tu veux garder la relation, parce que tu veux montrer les terres, tu veux le recevoir pour un repas. Il dit, ayez cette même affection-là dans la famille, comme pour un frère et pour une sœur, dans la famille de Dieu aussi. Parce que non seulement tu l'as sur terre, tu vas être avec pour l'éternité comme enfant de Dieu. Dans le royaume éternel de la présence de Dieu, contrairement peut-être à un frère ou une sœur sur terre qui ne restera peut-être pas avec toi pour l'éternité, parce qu'ils ne partagent pas la même foi. Celui qui partage la même foi porte la fraternité pour l'éternité. Et ça t'invite, selon l'Évangile, à regarder l'autre d'une manière différente, de porter un regard différent. Pas sur « il est différent », pas sur « il ou elle, son tempérament me tape sur les nerfs, il ne mange pas les mêmes épices que moi. » Non. Frère, sœur avec lequel je vais passer l'éternité. C'est le regard que Dieu m'invite à avoir. Amour fraternel, amour familial. Et regardez le moyen qu'il donne ensuite. Par honorer, par l'honneur, user de prévenance les uns les autres, ou de user de prévenance réciproquement, par honneur. Donc, en élevant la personne, on met en honneur des gens qu'on estime, n'est-ce pas? On met en honneur des gens qui ont un rôle d'autorité en société ou des gens qui, aux Olympiques, ont une belle médaille. On les honore. Mais on peut honorer pour plein d'autres choses. Et on est invité à une culture d'honneur dans l'Église, pas comme le monde le fait. Mais honorer les uns les autres, pas avec juste les valeurs du monde, mais avec les dons que Dieu nous a donnés les uns les autres. Honorer, élever quelque chose dans la vie de quelqu'un que Dieu fait en lui, que Dieu lui a donné comme capacité, et d'honorer par plein de petits gestes. On peut honorer les uns les autres. C'est un choix qu'on fait. Donc, accueillez-vous les uns les autres. Honorez les différences. Ça parle ici, évidemment, d'encouragement, de construire des ponts entre les cultures. Et le pont se construit comment entre les cultures? Par l'encouragement. Passez par-dessus les différences, voyant les besoins, le cœur humain. Et j'aide l'autre aussi à faire ainsi, car l'amour humain ressenti rend plus petit les différences. Quand quelqu'un passe dessus, là, puis même tout à coup, je ne vois plus l'autre de la même façon. Ça crée un pont. Ça crée un pont entre les cultures, ces gestes d'amour. Et tout à coup, on peut grossir les différences par l'exclusion, on peut rapetisser les différences par l'amour, par une réponse d'encouragement. Sur quel côté est-ce que je veux être ce matin? De ceux qui grossissent les différences ou de ceux qui rapetissent les différences? Le message de l'Évangile vient rapetisser nos différences parce que c'est ce que Dieu a fait envers nous. Et c'est en harmonie avec le message de l'Évangile. Deuxièmement, reconnaître la beauté de l'autre est un choix spirituel aussi à faire. L'idée d'honorer, c'est de porter une valeur sur laquelle quelque chose qu'on met un prix fixé, que ça a une valeur. Nous, on tout à coup, on n'a aucun certificat de citoyenneté dans notre coffre-fort. On l'a eu automatiquement. Mais j'ai payé cher, très cher avec mon épouse, pour que dans notre coffre-fort à la maison, pour protéger du feu, il y a 6 certificats de citoyenneté pour 6 de mes enfants qui n'étaient pas citoyens du Canada initialement. J'ai dû, avec mon épouse, payer cher pour faire les démarches administratives, aller dans un autre pays, faire les démarches administratives, etc., pour en arriver à avoir... Et tout à coup, ce que moi, ma femme, on n'a jamais eu un certificat de citoyenneté, c'était de l'inconnu, c'était pris pour acquis. Un certificat de citoyenneté, ça a une grande valeur, les amis. Et tu ne laisses pas ça dans ton classeur, tu le mets avec ton passeport, parce que tu en connais la valeur, parce que là, tout à coup, il y a un prix qui a été fixé à ce document-là, et il est dans notre coffre-fort. et je ne le donne pas à l'enfant adulte jusqu'à temps que c'est vraiment prêt à le recevoir. Parce que ça a une valeur, n'est-ce pas? Quand on l'a travaillé pour, on le connaît. Honorer, c'est de comprendre la valeur que peut-être nous, on ne voit pas, et de lui attribuer la juste valeur qui peut-être dans notre ignorance, on ne voyait pas. Par plein de gestes, on peut faire ça dans l'Église, les uns envers les autres. Apporter de la valeur à ce qu'il y a vraiment de la valeur, mais que peut-être mes yeux ne voient pas ou ne valorisent pas dans mon ignorance de l'autre ou d'expériences variées de ce que les autres ont vécu. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que reconnaître la beauté, c'est un choix à cultiver dans ma vie. C'est une décision. Ça ne te tombe pas de même d'un bras. C'est un choix que tu prends de dire, Seigneur, je veux faire partie de ceux qui valorisent ça. Ouvre mes yeux. Aide-moi à apprécier plutôt de juste me buter à la différence qui m'énerve. Puis elle est mutuelle, cette différence-là. Elle est mutuelle, c'est celui qui arrive et pour lequel il y a des choses choquantes qui énervent et pour celui qui reçoit et que les différences énervent. C'est des deux côtés, ça. Est-ce que je regarde juste ça ou est-ce que, Seigneur, cultive dans mon cœur, je fais ce choix spirituel, cultive dans mon cœur un regard différent d'honorer qu'est-ce qui est différent, et d'y mettre une valeur et de comprendre. L'honneur, et je le répète, je l'ai dit tantôt, l'honneur protège l'unité dans la diversité. Je le répète, l'honneur vient protéger l'unité dans la diversité. Et ça, les amis, c'est un choix que je demande devant le Seigneur à cultiver. Troisièmement, l'édification mutuelle produit la maturité collective. Et ça, c'est une vérité biblique qu'on ne peut pas passer à côté, qui est vraiment importante. L'éducation mutuelle n'est pas simplement un encouragement occasionnel. C'est un principe fondamental de la croissance spirituelle dans la communauté chrétienne. Selon l'Écriture, la maturité chrétienne n'est jamais purement individuelle. Et qu'est-ce que moi, je vais faire pour devenir mature? Le nombre de cours, de livres, de lectures et de choses que moi, je fais pour devenir mature. Non, dans la communauté chrétienne, ce n'est pas juste ça, la maturité. Elle n'est pas strictement le fruit d'individualité et d'efforts personnels. Elle se passe dans la vie corporative, communautaire. C'est ce que les Écritures nous disent et c'est ce que les uns les autres nous disent. Les 59, les uns les autres du Nouveau Testament. À preuve, le Nouveau Testament multiplie ses commandements, dont on a lu ici ce matin quelques-uns encore, et qu'on va continuer à lire de semaine en semaine. La finalité n'est pas seulement de la croissance, mais c'est la ressemblance à Jésus-Christ lui-même, ce processus de maturité, de ressembler de plus en plus à celui qui m'a aimé, comme Christ m'a aimé, hein? On l'a regardé au tout début. Mais donc, c'est de ressembler à lui qui est ce progrès de croissance. Une église édifiée mutuellement devient un témoignage visible de l'Évangile. Elle ne fait pas juste le dire, elle le vit et son impact est beaucoup plus grand. Et donc, l'éducation mutuelle produit la maturité collective parce que, quatre raisons, écoutez bien ceci, quatre raisons pourquoi l'éducation mutuelle produit la maturité collective. Premièrement, Dieu a conçu l'église comme un corps interdépendant. Si vous étudiez le Nouveau Testament, ça fait partie de la manière dont il a construit le corps, interdépendant, pas centré sur l'individualisme. Deuxièmement, la croissance passe par la vérité vécue dans l'amour, nous dit les Écritures. La croissance passe par la vérité qui est vécue dans l'amour. Troisièmement, les relations façonnent le caractère d'un homme et d'une femme. Parce que c'est dans les relations que je suis confronté à mes faiblesses, que le faire aiguise le faire, que je suis confronté à trop tolérer ou à être intolérant, confronté à manquer de courage de dire la vérité quand me le demande mon opinion ou de trop dire mon opinion. Peu importe où tu te situes. Mais ce travail de communauté vient aiguiser le faire, mon caractère. Et troisièmement, la maturité, bien, c'est un processus communautaire. Donc, on ne devient pas mature tout seul dans notre coin, mais on mûrit ensemble. Dites-le avec moi. On mûrit ensemble. Encore, on mûrit ensemble. C'est ça la communauté chrétienne. On mûrit ensemble. C'est pas juste moi dans mon coin qui fait, puis moi je vais être super chrétien, le mature. Non, il va te manquer quelque chose d'extrêmement important par des angles morts qui vont être négligés. Une manière d'illustrer ça serait la suivante. Un jardin avec des fleurs, vous savez, tu peux offrir un bouquet avec une seule sorte de fleur. Puis ça peut être super beau. Moi, j'aime les fleurs jaunes, OK? Quand je vois des fleurs jaunes, automatiquement, j'ai un petit faible. Là, il faut que je me dise, oui, mais Julie, elle n'aime pas juste le jaune, Joël, elle aime d'autres choses. T'sais. Mais moi, c'est le jaune, un beau jaune pétant, là. Soleil, là. Ça, c'est ma couleur préférée. Dites-le pas à tout le monde, là. Il y en a qui ne trouvaient pas ça très masculin. Mais ça, c'est le jugement facile. Hein? Moi, le jaune, j'aime ça, là. J'assumerais avoir un char jaune, mettons, là. Tu sais, là. Vous me jugeriez, là, mais je l'assumerais. J'aime ça, le jaune, là. Mais si j'achète juste un bouquet jaune à ma femme, ça n'aura pas le même effet que s'il y a un beau vert, il y a un beau violet, il y a un rouge. Puis là, deux, trois roses blanches, rouges, roses dedans. Puis là, tout à coup, avec quelques petits feuillages verts. Puis là, on a un bouquet. Hein? Un bouquet digne de ce nom. Amen! Il est bien plus beau par la diversité. Il peut être beau tout seul avec une seule couleur. Mais la multiplicité de couleurs que Dieu a créées, bien agencée, fait quelque chose qui a un impact beaucoup plus grand sur l'œil, n'est-ce pas? Et vos yeux en sont témoins. Rarement vos maisons sont la même couleur au complet. On peinture quelques couleurs, espérant que les deux, trois, quatre couleurs soient un agencement qui reflète quelque chose pour nous, une beauté. Pas souvent une seule. Bon, il y en a des maisons blanches, que Dieu vous bénisse, que vous toutes blanches, là, c'est correct, là. Il n'y a rien de mal à ça, là, OK, là, mais c'est un peu plus plate, mettons, hein? Mais même à ça, tu vas mettre un beau tableau de telle couleur, puis agencer pour mettre la diversité, généralement, hein? Et ça fait penser, par exemple, aux gens qui font ça en culture, qui utilisent la monoculture, par exemple. C'est-à-dire qu'ils font juste une seule culture sur leur terrain pendant des années, des années, des années. Ils se spécialisent dans une seule culture, que ce soit du maïs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On sait qu'il se crée une faiblesse avec le temps d'avoir une seule culture et pas d'avoir de la variété de cultures. Et ceux qui sont connaissants de l'agriculture le savent. Il se crée une faiblesse par le manque de diversité qui va se faire dans le sol, les nutriments qui sont siphonnés, qui ne sont pas variés, d'avoir de la variété, un roulement de sol, comme les Écritures nous invitent à le faire, en fait, aussi. Hein? C'est les Écritures qui nous disent ça. Les microbes vont atteindre cette culture-là, nous rendre plus vulnérables, etc. Il y a toute une multitude de faiblesses qui vient par une seule monoculture, que si tu as une variété de cultures qui va te donner plus de polyvalence, une meilleure richesse pour ton sol, une variété de bactéries aussi qui va faire mieux fonctionner ta multiplicité de culture et te protéger en cause qu'il y en a un de ceux-là que ça floppe pour une raison quelconque, par une bébite, par une situation économique dont baisse sa valeur, etc. Cette diversité-là, qu'est-ce qu'elle va apporter? La sécurité, la solidité chez l'agriculteur que s'il se branche sur une seule. Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez mon message? Vous comprenez vraiment? J'aimerais vous dire ceci. Je vais vous amener dans une illustration avec le livre que j'utilise justement récemment, puis après ça, j'ai invité aussi Idrel ou Ghislain à venir ce matin. Mais il y a deux chapitres au milieu du livre qui touchent quelque chose qui nous est très dérangeant en Amérique du Nord. La première, c'est la question de la distinction culturelle sur l'individualisme contre l'esprit de groupe dans les cultures chaudes et l'esprit individualiste dans les cultures nord-américaines ou froides ou urbaines, qui est un gros clash culturel lorsque les gens arrivent ici. Et j'oserais dire, puis le deuxième, l'autre chapitre, c'est similaire, mais c'est un peu différent quand même, et je vous donne ici le titre, c'est la vie de communauté contre celle de la vie privée. Et avant de vous l'expliquer davantage, juste vous dire ceci. Le message de l'Évangile, vous savez, il passe par le fait que Jésus, comme individu, il ne s'est pas arrêté à son individualisme. Est-ce que moi, j'ai le goût de faire ou pas? Il dit, « Père, non ma volonté, mais la tienne. Qu'est-ce qui est bon pour le monde qu'on a créé et qu'on aime, pour qu'il soit racheté? » Et vous savez, le Père Céleste nous dit dans l'Évangile, le Père Céleste a envoyé son Fils unique, son précieux de grand prix, pour venir sur terre parmi nous, pour permettre que le monde ne soit pas centré sur l'individualisme, mais sur un Jésus qui est venu sur terre marcher parmi nous et permettre à la collectivité humaine que s'il reçoit le sacrifice d'un homme qui est mort pour tous, que tous peuvent être sauvés s'ils croient. C'est tout le contraire de l'individualisme dans lequel on est trempé très fortement. Qu'on retrouve le message évangélique qui est beaucoup orienté vers le collectif. Je vous donne ici une explication. L'individualisme contre l'esprit de groupe. Une autre différence culturelle importante entre les cultures de pays chaud et celles de pays froid est la conception de l'individualisme face à l'identité de groupe. Dans la plupart des sociétés des climats froids, les enfants s'entendent dire dès leur petite enfance, « Tu es un individu. Apprends à penser par toi-même. Donne ton opinion. Sois confiant dans ce que tu décides. » Les enfants dans ces pays savent qu'ils doivent avoir une opinion personnelle et être capables de la défendre. On cultive ça dans les classes, les débats publics, avoir ton opinion puis de la défendre. Et je ne dis pas que c'est mal en tant que tel seulement, mais ce n'est pas juste ça. L'individualité et l'indépendance sont considérées des qualités en Amérique du Nord, par exemple, ou dans les pays de culture froide. Par exemple, on va entendre parler aux États-Unis beaucoup et dans notre culture, « J'ai des droits ». C'est une phrase récurrente. Ben, c'est mon droit, j'ai le droit de faire ça. Mon droit individuel. Lorsqu'il pensera avoir subi une injustice. Un autre aspect de cet individualisme pourrait être chacun pour soi et Dieu pour nous. C'est comme ça qu'on le pense. Dans la plupart des cultures chaudes, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Les enfants entendent dire plutôt, tu appartiens à une famille, à une tribu, à un village dans lequel tu as grandi. Et tes actions impliquent tout le groupe. Fais attention à ce que tu vas faire, parce que tes actions, ce n'est pas juste toi, c'est tout le monde que tu éclabousses. C'est toute une autre manière de penser qu'on cultive. Tu dois te conduire de manière à faire honneur à ta famille, à ne pas traîner ton nom dans la boue. Nous prenons tous soin les uns les autres, personne n'est seul. C'est ça que tu entends dire, de manière évidemment générale. Tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas un absolu, c'est une généralité, la plupart. Vivent ça dans telle et telle culture, mais pas tous. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité de groupe qui nous fait dire « Nous sommes une communauté et nous devons, par conséquent, partager notre nourriture, notre vie privée, notre main et nos opinions pour le service du groupe. » Ce qui se traduit par un comportement qui est inclusif, excluant toute indépendance. Et dans les deux cas, on peut aller à l'excès. Vous avez tous déjà vu des films, par exemple, qui vont mettre en vedette une culture asiatique où ce que l'enfant est écrasé sous le poids de l'honneur de sa famille, où ce que là, on est dans un excès des fois d'un honneur, où ce que là, on n'a plus d'opinion, on l'a tout déjà fait de ta vie, on s'en fout de ton opinion, tu fais ce qu'on t'a décidé pour toi, puis ça devient qu'on dénude la personne aussi d'avoir un appel personnel. On dénude la personne d'avoir des dons, des capacités, un rôle. Et de l'autre côté, dans l'individualisme nord-américain, où ce qu'on se fout tellement de l'autre qu'on pense juste à mon bien, ma promotion, puis l'autre à côté qui a de la misère, je m'en fous. L'important, c'est moi, là. Puis moi, je pense ça. Et ça, c'est les deux extrêmes qui sont nocifs dans les deux et qui nuisent à une société. Entre les deux, il y a certainement un monde d'équilibre, hein? Où ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre et cultiver les forces de chacun. Par exemple, une erreur courante, dit l'auteur, pour constater qu'on peut rencontrer dans les rencontres internationales, consiste de demander à ceux qui assistent leur opinion sur un sujet, quel qu'il soit, peu importe. Un Américain, par exemple, se lèvera volontiers pour donner son opinion. Ben moi, je pense ça, puis il va l'assumer très, très, très bien. De l'autre côté, un Kenyan ne le fera pas. Il ne parlera pas tant qu'il n'aura pas consulté son groupe. S'il connaît déjà le ressenti du groupe sur un sujet donné, il parlera. Et non en son propre nom, mais au nom du groupe qu'il représente. Le résultat est que la voix d'un Kenyan peut représenter une vingtaine de personnes, alors que la voix de cet Américain qui parle peut représenter que lui seul, qui chiale pour telle ou telle chose, qui a telle ou telle opinion. Alors que d'une culture chaude, c'est pas que tu n'as pas d'opinion, mais... c'est pas ça que tu veux mettre de l'avant, c'est est-ce que mon opinion fit avec ce que les autres s'y pensent puis qu'on trouve avantageuse pour l'ensemble de nous et pas juste, ben moi j'aime pas ça puis moi je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est pas lié à ce que ça fait sur les autres, c'est juste ton opinion personnelle dans une trop grande individualité. De l'autre côté, l'autre pourrait ne jamais parler parce qu'il n'a pas vérifié le pouls de personne, fait qu'il reste là silencieux et n'offre aucune parole. Par hésitation que culturellement, je dois avoir le pouls autour de moi pour parler. Peut-être vous écoutez ça et vous dites, hey, j'avais jamais réfléchi à ça, que quelqu'un d'une autre culture pouvait penser de cette façon-là. Parce qu'on est tellement... Alors, par exemple, il n'y a pas longtemps, je disais à ma femme, on avait une discussion, puis on parlait de comment des fois les gens dans des camps chrétiens vont donner leur opinion. Puis tu vas remarquer, justement, cette tendance à, moi, j'ai pas aimé ça, puis c'est pas centré sur, ah ouais, mais est-ce que c'est avantageux ou pas pour les autres, c'est juste mon opinion à moi. Parce que moi, le Québécois, là, je veux être servi. Moi, j'aime pas ça, mais te le faire savoir. Pourquoi? Parce que depuis que je suis né, mon père me dit, assume ton opinion, t'es important, là, puis ta-ta-ta, puis ta... Fait que là, il y a une tellement grande individualité que nos commentaires qu'on fait, des fois, de critiques, sont vraiment centrés juste sur comment moi, je me sens. Puis aucune égard, oui, mais les autres, ils pensent-tu pareil ou c'est juste mon opinion à moi tout seul? Vous me suivez? Ça, c'est un défi, vous savez. Et ça nous rend très opiniâtres et très divisifs à mettre beaucoup d'importance sur l'individu, mais des fois d'une façon excessive. Tout comme aussi, dans une culture chaude, excessive, on peut étouffer l'individualiste au niveau de, bien, j'ai un appel, des dons différents. Peut-être mes parents aimeraient que je fasse ceci, mais moi, je suis un appel pour faire tel type de travail, ou tel. Puis Dieu me donne ce don-là, etc. Ou ce que tout passe seulement par le groupe, et on oublie aussi l'appel de chacun, les dons et les capacités, talents que Dieu donne, uniques à chacun. Tout un défi, mais c'est important pour nous de comprendre ça dans notre interaction. Donc, si je résume de manière résumée du tout, là, dans une culture froide, par exemple, je suis une personne autonome, possédant ma propre identité. Chaque personne doit avoir sa propre opinion et est capable de l'expliquer. Chacun est censé prendre ses initiatives au sein d'un groupe, par exemple. Chacun doit être capable de prendre ses propres décisions. Mon comportement ne regarde pas les autres et ça n'a pas d'incidence sur le groupe. Ben, je suis désolé de te le dire, mais non, c'est pas vrai. Ta vie personnelle a une incidence sur tes enfants, sur tes collègues de travail, sur tes voisins, sur ta famille spirituelle. C'est pas vrai que t'es juste, c'est mes affaires. C'est une mentalité qui n'est pas biblique non plus, cet excès d'individualité. Et elle amène à cultiver un égoïsme excessif aussi parfois. De l'autre côté, la culture centrée sur l'esprit de groupe, c'est « j'appartiens donc, je suis ». C'est comme si t'as pas d'individualité non plus sans le groupe non plus. Mon identité est chevillée au groupe, aux familles, aux tribus. Le groupe me protège et pourvoit mes besoins. Prendre des initiatives dans un groupe dépend du rôle que l'on m'octroie. Je ne m'imagine pas prendre une décision de moi-même. Et là, des fois, ça peut devenir excessif. Là, ça devient finalement, on ne bouge pas, alors que peut-être on devrait bouger, si Dieu nous a montré qu'on devrait le faire. Mon comportement a un impact sur le groupe entier, effectivement. Oui, il y a des forces dans les deux côtés, des excès qui amènent aussi des faiblesses. À les peser, à juste les comprendre. Et comprendre l'autre, pourquoi il agit de telle façon. OK, je comprends mieux. Je peux apprécier plus une chose qu'un autre ou ne pas apprécier quelque chose, mais comprendre, c'est le début. De l'autre côté, il y a la vie du groupe et contre la vie privée, par exemple. Et je vous l'explique. L'intégration fait partie des fruits de l'identité de groupe que l'on retrouve particulièrement dans la culture de pays chaud. Cela signifie que n'importe qui est automatiquement intégré dans tout ce qui arrive en sa présence. Que ce soit une conversation, un repas, une émission de TV, un match ou n'importe quoi d'autre. Cela signifie également que si deux personnes discutent, une troisième peut se joindre librement à la conversation, même si ici, ça serait considéré une conversation privée, vous excusez, on ne t'a pas invité dans la conversation. Asseyez ça dans un vestiaire. Ça se peut que quelqu'un te dise, je te connais pas, là. Mais dans une culture chaude, tu peux t'intégrer là, à la conversation publique et c'est tout à fait normal. Pour nous, c'est privé, c'est pas de tes affaires, là. Je te connais pas. Peut-être pour vous, c'est choquant, c'est surprenant ce que vous entendez là, mais effectivement, dans une culture et dans une autre, cette manière de gérer ça est très différente. La culture individualiste met de l'avant l'aspect privé de ma vie, ce qui se traduit par le droit d'intimité. J'ai le droit d'être seul. Que ce soit lors d'une conversation, d'un repas, au sein d'un espace réservé pour eux-mêmes. Un exemple, par exemple, tu vas au restaurant, OK? Le Nord-Américain arrive d'un restaurant, puis là, il voit deux, trois tables cordées à côté de l'autre, puis il y a juste un pied entre chacun. C'est l'inconfort total. Ah, chérie, on change de restaurant. Parce que là, j'entends la conversation de l'autre, je veux pas qu'il entende, je veux pas qu'il entende la conversation. Dans une culture chaude, que les tables soient collées les unes sur les autres, c'est pas du tout inconfortable de la même façon. Vous voyez? Dans des choses, dans plein de détails aussi simples que cela. Il est tacitement convenu que lorsqu'un ami s'approche, il part du principe que les autres ont la conversation privée. Il assume son arrivée et il demande, par exemple, dans le Nord-Américain, « Est-ce que je peux me joindre à vous? Est-ce que vous êtes d'une conversation privée? » En Amérique du Nord, c'est comme ça qu'on procède. On demande la permission. On ne veut pas juste entrer dans la conversation. Si ça vous dérange, je peux revenir plus tard. On use de politesse pour se donner et demander le droit de participer à la discussion ou d'être présent, ou peut-être vous étiez en train d'avoir un moment privé, je peux venir plus tard. Et pour quelqu'un de culture chaude, ça serait étrange de faire une telle démarche, parce que ça serait tout à fait normal d'inclure automatiquement. Je vous donne un exemple de tout ça assez simple que je trouve intéressante et qui est tellement typique. C'était justement l'auteur qui était en train d'aller dans un autobus avec au Thaïlande. Et à un moment donné, dans l'autobus, ils sont des gens de plusieurs nations qui sont en visite. Et là, il propose des raisins à deux Européens. Alors, cette femme-là est habituée. Il y a d'autres personnes qui vont apprécier. Elle a une boîte de raisins qu'elle a amenée comme collation pour le voyage. Alors là, les deux Européens ont dit « Non, merci, nous avons apporté ce qu'il faut. » Ils ont également refusé les gâteaux. Alors, elle dit, « Je me suis alors levé et j'ai proposé du raisin aux personnes autour de moi. » Dans le bus, les Africains, les Sud-Américains, des Asiatiques, ils ont tous accepté, puis ils ont sorti leur propre nourriture pour ensuite le partager. Puis là, le Nord-Américain, il fait, « Ah, non, je ne touche pas à ça. Là. Je ne sais plus le laver comme il faut. Puis, ça a l'air dégueulasse, je ne toucherai pas à ça. Non, moi, je vais prendre mon lunch à moi tout seul. » Vous comprenez? Nous nous sommes bien tôt retrouvés, elle dit, au milieu de sacs de figues sèches, de chips de pain, et tout ça était partagé. C'était la fête! Mais tu fais pas ça d'un autobus à Montréal en allant au travail, mettons. Hein? Les deux Européens ont apprécié leur repas, mais raté l'essentiel de l'expérience. Ce n'était pas tant la nourriture qui importe que le fait de partager les uns avec les autres en veillant à ce que tout le monde soit servi, même celui qui n'avait pas pensé à un lunch. Lui, de cette façon-là, si tout le monde mange son lunch, bien, celui qui n'a pas de lunch, il est resté tout seul. Ça paraît. Peut-être qu'il n'a pas assez d'argent, fait qu'il est isolé, puis on voit qu'il a pas assez d'argent pour avoir son lunch. Mais si on met en commun, tout le monde est sur le pied d'égalité, et c'est inclusif. Vous voyez? Ça, comme Nord-Américain, ça nous est inconnu. Malheureusement. Et pourtant, tellement intéressant, cette différence culturelle. Mais là, j'espère que vous allez y penser la prochaine fois que quelqu'un vous offre... Attends un petit peu, là. Il me semble que j'ai entendu ça quelque part, d'une prédication quelque part, là. Ceux qui n'avaient rien apporté furent intégrés au groupe. Le fait de tout partager a évité de faire une distinction entre ceux qui n'avaient rien et qui avaient à manger. La communauté a pris soin de tout le monde de cette façon-là. L'intégration dans la communauté d'un pays chaud fait partie d'un but essentiel dans tout ce qui est fait. Personne n'exclu, personne n'est seul, et à cause de ça, il y a une moins grande souffrance de solitude. Vous savez, on souffre de solitude en Amérique du Nord. C'est un gros problème. Dans une communauté chaude, tout le monde est le bienvenu d'aller visiter quelqu'un. Tu es tout seul, tu t'emmerdes chez vous, un bon Québécois. Tu t'en vas visiter ma tante, que ma tante ait du monde chez eux ou pas. Tu t'en vas visiter le voisin. C'est pas grave, tu n'as pas besoin de le dire que tu t'en viens. Nous autres, on est dans un monde où tout est cordé, des rendez-vous. Tu n'as pas le temps d'un imprévu de quelqu'un qui te présente à la porte. En fait, c'est considéré comme impoli de faire ça. Mais de cette façon-là, ce que ça fait, c'est que on a une société qui souffre de solitude. Les gens sont seuls et ne savent pas comment sortir de leur solitude. Ils vont s'inscrire des fois à des activités de groupe, dans des groupes sociaux pour y participer, mais c'est de telle heure à telle heure. C'est pas tout le temps. Et on a des célibataires, on a des couples qui souffrent de solitude dans cette culture où on n'intègre pas facilement dans notre manière de vivre l'intérêt pour l'autre et qu'il a accès à nous. Et je comprends que ce n'est pas facile dans notre mentalité individualiste de penser autrement. Parce que tout est cordé et même notre horaire ne le permet pas. Moi, mon horaire est tout cordé d'avance. Là. Fait que là, quand quelque chose arrive, j'ai de la misère à gérer l'imprévu parce que tout est cordé. Puis là, j'ai pas le temps, je m'en vais pour ça. Tout de suite après ce rendez-vous-là, je suis là. Et on est comme ça. Et cet sur-élément-là qui est le défi dans un milieu urbain, très organisé, où ce que tout est séquencé, rend difficile ce défi qu'on vit collectivement d'une grande solitude en société et qui en partie s'explique dans ce genre de choses-là. Il y aurait tellement de choses à illustrer à ce niveau-là, mais je vous résume le principe parce que le temps nous est compté et limité aussi. Ça fait partie des défis de la culture froide. Tu commences à telle heure, puis tu finis à telle heure. Puis avise-toi pas de finir plus tard, parce que ça va commencer à sortir. C'est l'Amérique du Nord. La vie de groupe contre la vie privée. Je vous le résume. Ce qu'il faut savoir, c'est dans le pays chaud, la culture de groupe, la culture centrée sur le groupe, chacun sait qu'il a automatiquement sa place dans la conversation, au repas, dans toute activité de groupe. Les biens qui servent à tout le monde, nourriture, outils, etc., c'est le partage. Généralement, personne ne souhaite rester seul. Il est impoli d'avoir une conversation privée et de faire des projets qui ne concernent pas les autres personnes présentes. C'est impoli. Le pays froid, culture individualiste, lui, les gens apprécient d'avoir du temps et de l'espace seul. Ce qui n'est pas mal en soi aussi, là, d'avoir des moments seuls. Ou ce que des fois, ça peut être trop envahissant aussi dans certaines cultures. Puis il n'y a plus de place pour te retrouver seul, un moment de tranquillité. Parce qu'il y a des gens dans toute culture qui se... Il y en a qui se ressourcent aussi dans la tranquillité. Puis il y en a qui se ressourcent dans le groupe, dans la foule. On est censé demander la permission avant d'emprunter quelque chose ou bien pour interrompre une conversation. Tu ne fais pas juste t'immiscer dedans. Chacun est responsable de ses biens et doit l'entretenir et les protéger. En communauté, on inscrit son nom sur la nourriture dans le frigidaire, sur les outils, pour pas que quelqu'un vienne le prendre, puis que finalement, tu ne te sentes pas respecté s'il le prend sans permission dans la culture froide. Pour distinguer le propriétaire personnel de tout ce qui est en commun pour un groupe. On peut avoir une conversation en privé ou bien faire des projets pour quelque chose, pour quelques personnes, même si les personnes non concernées sont présentes. C'est particulier, hein? Deux cultures différentes. Et pourtant, le Seigneur nous invite à comprendre l'autre et trouver et faire des efforts mutuels pour se comprendre. J'ai invité Ghislain ou Idrel, c'est qui vient? Pour compléter ce point-là, puis on va conclure. Merci, Ghislain, de te prêter à ce bel exercice.
Merci, Joël. Alors, j'ai quelques histoires pour illustrer le propos de Joël et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce qu'il disait. Ça m'a fait revivre un certain nombre de souvenirs. Je suis arrivé au Canada en 2016 et, short story, la neige, je regardais à la télé, mais j'avais aucune idée de ce que ça faisait réellement. Fait que j'avais un frigo chez moi, un congélateur, je me disais, c'est sûr que c'est à peu près ça. Jusqu'à ce que je réalise que c'est pire que le frigo qu'on a à la maison. Fait que je débarque ici dans ce contexte. Vraiment, c'était un choc. Mais je suis quand même arrivé fin août, donc début automne, ça commençait à être froid pour moi. C'était déjà le premier choc. Du coup, j'arrive à Trois-Rivières, je connais personne. Fait que mon oncle qui est à Châteauguay, il est arrivé, il m'a droppé littéralement. Et puis il a dit, je vais te laisser où tu vas rester et puis moi je dois repartir. Et il est reparti comme ça. Pour de vrai. Fait que j'arrive dans une ville et là j'étais dans 4,5 avec un jeune Québécois comme colocataire. C'est la première fois que je vais avec quelqu'un en dehors de ma famille. Du coup, le gars, il aimait avoir son espace privé. Au point où même manger, il préférait manger dans sa chambre. Moi, c'était un choc énorme, ce qui a fait que, heureusement qu'en 2016, il n'y avait pas de crise de logement comme aujourd'hui. Après 10 jours, j'ai changé de logement. Fait que, pour de vrai, je suis parti de là parce que c'est comme, je vivais avec quelqu'un, mais c'est comme si je vivais seul. Et comme je le disais tantôt, il y avait ses affaires dans le frigo, ses affaires, on ne partageait rien. Moi, j'ai dit non, tant qu'à aller vivre seul, que de rester avec quelqu'un, avoir le sentiment d'être avec quelqu'un. Donc, fait que je suis parti de là. Et le deuxième logement que j'ai eu, justement, je suis tombé dans une colocation avec un entier et puis un Africain. C'était toute une autre dynamique. On s'organisait ensemble. Qu'est-ce qu'on mange? Des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Fait que on a commencé à partager des affaires. Il n'y avait pas ceci est à moi, ceci est à toi. Ah, tiens, tu vides les poubelles aujourd'hui. Ok, je vais le faire des affaires. S'il te plaît, j'ai oublié telle affaire. Est-ce que tu peux le fermer pour moi? Je n'ai pas fermé ma chambre. Est-ce que tu peux. Fait que ça allait facilement de source. Et une chose, ça c'était à l'extérieur, mais à l'église aussi, j'ai plutôt été bien accueilli. Je vais citer quelques noms qui ont facilité mon intégration pour montrer que même dans une culture froide, il y a des gens qui ont des attitudes de culture chaude. C'est drôle, ils sont presque tous assis de ce côté. Tommy, par exemple, les premières personnes avec qui on a fait le groupe vie, bon, c'était chez Benjamin et Amanda à l'époque, je ne vois pas Benjamin. Tommy, Mélanie, Abby, Sir Joseph Aubu, et son père Jocelyn, OGBU et autres, c'est vraiment, et plein d'autres personnes, c'est des personnes qui ont facilité vraiment mon intégration, que ce soit dans la ville de Trois-Rivières et même ici à l'église. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Fait que, c'était mon premier choc de réaliser à quel point il y a des différences tant sur le plan de ce qui est à moi et de ce qui est à nous. Maintenant, une autre affaire que j'ai constatée quand j'arrive, je vois qu'il y avait beaucoup de résidences pour personnes âgées. Fait pour moi, c'était pourquoi est-ce qu'ils mettent les vieux dans des prisons? C'était vraiment le sentiment que j'avais. Genre, mais pourquoi ils le font? Et je vais l'expliquer parce que chez nous, ma grand-mère, elle vit chez mes parents. Et si mes parents étaient ici, puisqu'ils sont à la retraite, ils vivraient chez moi. Donc, on a grandi avec cette mentalité-là, comme Joël disait justement, tu ne vis pas pour toi, tout ce que tu fais, tu impactes pour les autres. Par exemple, quand on immigre dans des pays où il y a plus d'opportunités financières, comme ce fut mon cas, vous allez remarquer beaucoup d'immigrants dans la salle, on n'a pas juste un emploi, généralement on a un, deux, peut-être plus. Parce qu'on ne travaille pas juste pour nous. Prenant par exemple mon cas, moi je suis à la fois fonctionnaire au fédéral et puis je suis enseignant à l'université. Fait qu'on me demande pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est parce qu'il y a une partie de mes revenus qui sont pour gérer mes affaires ici. Et puis une autre partie, il faut que je prenne soin, pas seulement de ma famille directe, mais il faut que je prenne soin aussi de certains de mes oncles, de certains des enfants de mes oncles, donc de la famille un peu plus élargie. En d'autres mots, comme un proverbe africain dit, une seule main ne peut pas attacher un paquet. Ça prend plusieurs mains. Donc il y a cette façon de voir communauté qui peut faire en sorte que parfois, ça fait en sorte que même quand on arrive ici, on a cette tendance à toujours vouloir agir en pensant d'abord. Tout. Ça peut être, j'avoue, quand même parfois intrusif, mais prenez-nous comme ça. Donc, c'est un peu ça aussi, ça fait partie de la beauté des choses. Et la beauté des choses que moi je trouve, c'est qu'à l'église, moi je retrouve cette façon de vivre plus communautaire qu'individualiste que je retrouve dans la société. Donc, je suis plus à l'aise d'être, par exemple, tantôt il y a une petite scène qui s'est passée pour ceux qui ont vu ma fille, Anaëlle, elle était assise là et puis elle a vu l'enfant de Joanie, elle me dit, papa, je vais aller voir Samuel. La semaine passée, j'ai dit, c'est qui Samuel? J'ai dit, je veux voir Samuel. Bon, après, ah, il est plus petit que toi. C'est bon, vas-y. Et elle est passée tout tranquillement. J'ai pu la laisser passer et jouer avec et tout. Donc, fait que c'est juste pour dire que c'est un peu c'est quelques petites anecdotes. Mais à l'église, et moi, ça me réjouit beaucoup. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup l'église baptiste de Trois-Rivières, parce que j'ai retrouvé cet aspect vraiment communautaire-là qui nous aide à avoir chaud. Quand il fait extrêmement froid, moi j'attends l'été en passant.
C'est tellement profitable d'entendre ça. Hein? Vous aidez à comprendre. Deux petites observations, puis on conclut. Vous savez, nous autres, on a peur que si je ne mets pas mon étiquette sur mes affaires, puis qu'on partage, l'autre va profiter de moi. Hein? C'est vrai, hein? Il va ambitionner sur moi, il va en prendre plus que qu'est-ce qu'il contribue. C'est comme ça qu'on pense, le Nord-Américain, là. T'as peur que, parce que peut-être t'as vécu que quelqu'un a profité de toi, de ta bonté, puis qu'il franchit les frontières, même peut-être des fois d'être abusif, de trop demander. Et c'est pas bien de l'autre côté, n'est-ce pas, hein? De pas apporter aussi sa contribution dans un partage. Il y a un moment pour donner, un moment pour recevoir, etc. Mais il y a cette peur que l'autre profite de moi, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Le seul moyen, ultimement, de passer par-dessus ma peur que l'autre profite de moi, c'est que je fasse confiance à Dieu que Dieu pourvoit pour moi. Et que si Dieu pourvoit pour moi, il saura me montrer aussi le moment de dire non à quelque chose, mais pas d'être protectionniste en partant, mais de donner le bénéfice et d'exercer la bonté, le partage. C'est tellement important. Moi, je pourrais m'acheter une échelle chez nous. Je n'ai pas d'échelle. Mais j'ai toujours un voisin qui a une échelle. Pourquoi je m'achèterais une échelle? Ma femme, elle me regarde et elle dit, « Oh non, tu n'as pas amené ça en avant. Ça fait des années qu'elle veut que j'achète une échelle. » Mais moi, dans ma tête, elle me dit, « J'ai toujours eu un voisin, Seigneur, qui a une échelle. Puis il ne l'utilise pas beaucoup. » Alors, j'irai en service de temps en temps, lui demander, une fois par année ou par deux ans, « Est-ce que je peux utiliser ton échelle? » Sinon, son échelle n'est pas usée. Alors, moi, je me dis dans ma tête, j'irai en service parce qu'un objet pas assez utilisé, c'est pas rentable. Alors, j'ai mon voisin Jacques maintenant que j'appelle une fois par année pour emprunter son échelle. Je fais 3-4 maisons. Il est gentil, Jacques, à la retraite. Puis ça lui fait plaisir, sincèrement, de me le prêter. Puis si ça lui fait pas plaisir, il me l'a jamais fait sentir, en tout cas. Mais dans le nom de Jésus, j'utilise son objet sous-utilisé une fois par année. C'est utile. Je pourrais me le payer à 200$ pour avoir un autre cossin chez nous qui traîne. Mais pourquoi pas partager? Pourquoi pas partager? Puis utiliser ce que l'autre n'utilise pas tant, puis que finalement, si je lui demande gentiment, il est heureux de me le prêter. C'est une autre mentalité, n'est-ce pas? Concluons ensemble. J'aimerais juste vous dire ceci en terminant. Tout ceci, vous savez, c'est en rapport avec les valeurs de l'Évangile. Je prends la décision ce matin. Qu'est-ce que je peux prendre comme décision? Trois décisions. Apprendre à célébrer les différences culturelles au lieu d'être frustré. Seigneur, aide-moi à avoir une meilleure attitude, puis comprendre. Poser des questions. Plutôt que tout de suite être frustré, être insulté. Donner la parole à plusieurs voix dans les célébrations, réunions, équipes de travail pour avoir des voix variées de faire les choses. Des angles qu'on ne considère pas qu'en ayant une autre voix nous ouvre d'autres possibilités au lieu de rester toutes avec la même voix. Vous me suivez? Comment je peux mieux faire avec des voix différentes qui me sortent des sentiers battus de ce que ma culture me donne comme moyen et que peut-être il y a d'autres moyens à faire? Et finalement, cultiver une culture de parole positive et valorisante. De le dire quand vous voyez quelque chose que l'autre fait, qui est culturel, puis « Hey, c'est beau ça! Hey, j'ai aimé ton plat! Hey, c'est joli ton peigne! Il y a tellement des belles couleurs! » Plutôt de faire « Ah, c'est étrange, elle porte pas du linge comme chez nous. » Pourquoi pas dire « C'est beau que quelqu'un s'habille différemment ce matin avec sa culture. » C'est beau, les amis! Disons-le. Faisons un commentaire. C'est joli. Merci. Quel beau chapeau. On ne porte pas beaucoup de chapeaux ici, mais dans une autre culture, on porte beaucoup de chapeaux. Il y a plusieurs raisons. On n'embarquera pas ça ce matin, mais dites-le, appréciez. Une des choses que deux personnes m'ont parlé cette semaine, c'est « Joël, on devrait avoir un repas communautaire ». Multiculturel. À l'église de Antique, où j'étais pasteur à Montréal en 99-2000, une activité qu'on faisait annuellement, c'était d'organiser un repas communautaire, un potluck, où ce que tout le monde amène son plat de sa nationalité avec un petit drapeau dans le mets ou à côté du mets. Et là, ce samedi soir-là, on venait avec des amis, mon voisin qui vient de la Mauritanie, je dis n'importe quoi, là. L'autre, son voisin portugais, dit « Hey, on a un repas communautaire multiculturel, tu viendrais-tu à l'église samedi soir, c'est pas le dimanche matin? » Et là, dans ce repas communautaire, on pouvait goûter différentes choses qui valorisaient chacun. Et là, après ça, il y avait une personne issue de l'immigration qui donnait un mot de témoignage, 15-20 minutes, sur son cheminement comme immigrant et sa relation avec Jésus. Et c'était un moyen d'évangélisation à l'église évangélique baptiste de Antique à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, où j'étais pasteur il y a de cela plus de 25 ans. Et j'ai toujours gardé ça en arrière. Ça serait pas beau de faire ça ici? Deux personnes m'en ont parlé cette semaine. Je me suis dit, tout ce, vous savez, tout ce qu'il faut pour ça, là, c'est 3, 4, 5 personnes qui prennent l'initiative. On va se mettre ensemble, puis on va travailler sur un projet. Un projet qui va valoriser, honorer nos différences et cultiver des appréciés. Amen. Prions ensemble. Levons-nous, s'il vous plaît. On a parlé beaucoup, on a parlé de beaucoup de choses. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique la parole. Et c'est ce qu'on va prier ce matin. Seigneur, ta parole, on ne veut pas juste l'entendre, mais on entend des choses ce matin, Seigneur, sur comment mettre les uns les autres en pratique, là. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, moi, ce matin? Comment, Seigneur, je peux mettre en pratique l'évangile de comment Jésus est venu vers moi et non moi vers lui? Comment Jésus n'a pas pensé en termes individuels, mais il a pensé en termes collectifs au bien. Puis il a pensé pas à sa volonté, Seigneur, mais la tienne. Heureusement, Père Céleste, que ton Fils Jésus a été soumis à ta volonté. Et il a dit cette dernière phrase, sinon on serait tous perdus si Jésus n'avait pas été jusqu'au bout dans cette pensée collective de qu'est-ce qui est bien pour la création que j'ai créée. Merci, Seigneur, d'avoir créé un pont entre nous et Dieu, d'avoir créé une possibilité de pardon pour recimenter ce qui avait été brisé dans notre rébellion humaine. Merci, Seigneur, pour ces paroles collectives partout dans le Nouveau Testament. Aide-nous à les mettre en pratique dans la communauté, à comprendre, à aimer mutuellement, pas juste un groupe envers l'autre, mais les deux groupes, ceux qui reçoivent comme ceux qui accueillent, ceux qui arrivent et qui trouvent difficile, ouvre nos yeux sur l'autre. Décentre-nous de nous-mêmes, Seigneur, de ne pas prendre les choses personnelles, de m'intéresser, de poser des questions, d'apprécier, de verbaliser ce que j'aime, ce que je vois, que je trouve beau. Accorde-nous d'être cette Église, Seigneur, à cause de l'Évangile dans nos vies, de l'amour de Jésus, qui s'intéresse sincèrement à l'autre et que ça puisse avoir un impact dans notre ville, Seigneur. Nous te le prions et nous dépendons de toi pour le faire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci de votre attention.